Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Normal, pas normal. Et si on en parlait ? Bien, ce matin, nous recevons Serge Billet, écrivain, journaliste ou journaliste écrivain. En tout cas, ça dépend. Quoi qu'il en soit, il assume pleinement et avec dextérité et sagacité les deux fonctions, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire, parce qu'on apprend, on découvre. Voilà, et c'est ça aussi qui est intéressant. Le livre est prévu, sortir en Europe le 8 septembre prochain.
Le 6 septembre.
Le 6 septembre, pardon. Alors que l'exclusivité, sinon l'avant-première, on a été réservé à la Côte d'Ivoire, sont les contours d'un retour au bercail, au pays natal.
Non, voilà. Il est sorti le 18 juillet, donc en Côte d'Ivoire, pour le Tout Mandela Day. J'essaie chaque fois que je peux de privilégier la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la troisième fois que j'ai fait une sortie de livre, d'abord en Côte d'Ivoire. C'était le cas pour Mes années au fouet. C'était le cas aussi pour le livre sur Marie-Thérèse au fouet de Boigny.
Tout à fait.
Quand je peux privilégier la Côte d'Ivoire, je le fais. Voilà, okay. C'est pas toujours facile parce qu'on a des contraintes aussi de calendrier en France et en Martinique. Et donc là, j'ai pu, donc je l'ai fait parce que pour moi, c'est un plaisir aussi de le faire pour la Côte d'Ivoire.
Est-ce que ça dessine aussi le retour, les contours d'un retour au bercail ?
Non, il faut d'abord savoir qu'il y a, en 2005, quand j'ai eu mon premier grand succès avec le livre Noir dans les camps nazis, où c'est un succès mondial, il s'est vendu quand même à 100 000 exemplaires.
Tout à fait.
Eu ce succès-là. Beaucoup d'Ivoiriens se sont plaints en disant, mais c'est pas normal, vos livres, quand ils arrivent de Paris, ils coûtent 12 000, 15 000.
Parce que dans le cas de celui-là, c'est 20 euros en France.
Oui, 20 euros en France, mais ici, ils coûtent 5 000 francs CFA. Donc, je me suis battu pour que je puisse récupérer les droits de mes livres, les racheter parfois, et puis imprimer les livres moi-même avec tout ce que je gagnais en France, les imprimer pour les mettre à des prix abordables en Côte d'Ivoire. Donc, ça a toujours été ma politique. Donc, depuis 10 ans, je ne fais que ça. Je ne cherche pas à gagner d'argent. Au contraire, j'en perds. Mais au moins,
enfin.
Non, mais c'est vrai. Au moins, c'est une façon de servir la Côte d'Ivoire et d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, ça n'a rien à voir avec un retour. Bien sûr, le retour est programmé pour 2025, donc je serai là de retour définitivement.
Mais est-ce qu'il y a des velléités politiques quelque part là ?
Non, pas du tout. J'ai toujours dit, tant que je serai journaliste, je ne m'intéresserai pas à la politique.
Okay.
Et je l'ai fait en Martinique, en Côte d'Ivoire, à Paris. Quelles que soient les sollicitations, je me suis jamais entré en politique parce que je voulais avoir ma totale liberté de pouvoir critiquer Gbagbo, Médier ou Ouattara. Et ça, je suis resté là. Là, je pars à la retraite à la fin de l'année.
Tout à fait.
C'est pas que je pars à la retraite. Je démissionne de la télévision parce que je suis fatigué de faire de la télévision.
Donc je
prends ma liberté.
Ça, c'est quand même un rare privilège, ça, que d'être fatigué de faire la télé.
Oui, voilà. Mais ça fait 30 ans que j'en fais.
C'est vrai.
Donc, je m'arrête. Je vais m'installer à Paris pendant 2 ans pour faire de l'écriture à la fois musicale et puis de livres. Et puis, en 2025, je reviendrai. Si demain, on a besoin de moi pour faire quelque chose, je serai là. Mais là, je ne serai plus en journalisme, donc je serai totalement libre.
En tout cas, ça, c'est vraiment très intéressant. On va parler un tout petit peu musique aussi. Parce que, je le disais tantôt, vous dressez le pont entre l'Afrique, entre les Antilles, l'Europe et l'Afrique. Quelles sont, vous, les musiques qui vous ont marqué, puisque vous êtes aux Antilles? On se dit, tiens, peut-être que le zouk fait partie, non?
Oui, puisque bon, j'ai quand même composé pour les plus grands chanteurs de zouk.
Kassav, par exemple.
Béroir, Eric Virgal, il y a des chanteurs. Et puis j'ai aussi composé des duos, celui de Charlotte Dipanda avec Eric Virgal, ou de Mewé avec Eric Virgal, voilà. Donc, naturellement, le zouk, c'est ce qui m'a le plus imprégné. Je suis dedans, je baigne dedans, j'ai eu la chance d'avoir un succès très tôt à mon arrivée aux Antilles, avec la chanson « Je t'aimerai » que beaucoup de gens écoutent ici, ont apprécié ici. Donc oui, ce succès-là m'a permis vraiment de m'imprégner d'être dans le zouk. Et aujourd'hui, je fais le chemin inverse. Où maintenant, peut-être là, par contre, ça, c'est lié au retour. Je travaille plutôt dans l'afrobeat. Voilà.
Et donc,
la première collaboration avec Momo Wang. Donc, pour un single qui sort donc le mois prochain. Voilà. Donc,
Serge Billet poussant la chansonnette.
Non, pas du tout. Non.
Ah, d'accord.
Non, moi, j'écris les paroles, lui fait la musique. Et on produit une chanteuse qui faisait partie du groupe Nafasi.
Yili
à fouet.
Tout à fait.
Et donc voilà, on fait ça pour le mois prochain.
Voilà. Je sollicitais tantôt l'écrivain. Maintenant, je vais solliciter le journaliste qui balayera l'actualité politique aussi franchement que possible.
Oui, si je peux.
Voilà.
Non, mais là, il n'est pas en France, il est ici. Donc, est-ce qu'il peut tout dire?
Ah oui.
Ici, il a toujours tout dit.
Voilà.
Et ça lui a coûté très cher.
Je
pense que les anciens s'en souviennent.
Voilà. Déjà, commençons par le Mali. 49 soldats ivoiriens y sont détenus. Alors que la voie diplomatique est mise en branle par l'entremise du Togo, qui a dépêché son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, rencontré et Alassane Ouattara et Assimi Goïta, le procureur de Bamako ouvre une enquête judiciaire. La voie diplomatique a-t-elle de facto échoué ?
C'est pas qu'elle a échoué. Enfin, vous savez, il y a des rapports de force et il y a les muscles que l'on montre en public et ce qu'on dit en privé. Moi, franchement, je pense, vous savez, j'ai vécu à l'époque du fouet de Boigny. Et je pense qu'il avait une phrase qui était très forte. Tant qu'on peut dialoguer, il faut dialoguer. Okay. Voilà. Dans cette affaire, c'est malheureux à la fois pour nous, parce que nos soldats sont retenus. C'est malheureux aussi pour les Maliens, parce que nous sommes des peuples frères. Donc c'est au niveau des États qu'il faut dialoguer, parce que cette histoire-là n'aurait jamais dû arriver. Et au point où on en est maintenant, c'est juste le dialogue qui peut permettre de décrisper et qu'on sorte chacun la tête haute. Ça sert à rien de faire un bras de fer. On pourra pas se faire la guerre. Et puis, c'est même pas souhaitable. Personne ne pourra sortir vainqueur de ça, ni les Maliens, ni les Ivoiriens. Donc, dialoguons pour pouvoir sortir de ça. Parce que je pense aux familles de ces soldats. Ça doit être extrêmement difficile, éprouvant de ne pas avoir de nouvelles de gens qu'on aime et qui sont retenus, donc, prisonniers.
Voilà, qui a le mérite, bien évidemment, d'être clair. Monsieur le Perpignan, Lynn Beugré, avez-vous, bien évidemment, une préoccupation pour monsieur Serge Billet, ou une question dans le genre?
Moi, c'est plus, l'histoire du Mali. On sait que le gars, c'est un militaire. Peut-être, est-ce qu'il agit pas en tant que militaire? Puisqu'il n'est pas un diplomate, je pense pas. Donc, il agit comme un militaire, dent pour dent, œil pour œil.
Oui, mais ça sert à rien, parce que qu'on soit militaire ou qu'on soit civil, il y a un moment donné, on reste dans une impasse. Voilà, retenir des prisonniers comme ça, sans motif, et en plus expulser donc le porte-parole d'Aminusma, je vois pas l'intérêt, il faut dialoguer. Personne ne s'en grandit de ça, et ça crée des tensions inutiles. C'est vrai que derrière tout ça, il y a aussi peut-être une façon de vouloir faire payer tout ce qui a pu être fait comme sanction par la CEDEAO. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je n'ai pas compris non plus ces sanctions. Vous savez, moi, j'ai un raisonnement qui est très simple. On ne peut pas, je ne suis pas pour la prise de pouvoir par les militaires. Franchement, ça, c'est hors de question pour moi. Après, les Maliens font ce qu'ils veulent. Chaque peuple accepte ce qu'il veut. Mais je suis à la fois contre les pushes militaires et les pushes constitutionnelles. Okay. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, à partir de là, quand il y a l'un, il peut y avoir forcément l'autre. Et donc, il faut éviter et l'un et l'autre.
Voilà. 27 225 49 880, nous sommes donc en compagnie de Serge Billet, écrivain, journaliste. Voilà, donc si vous avez bien évidemment des préoccupations, si vous voulez participer, évidemment c'est le moment, parce que nous ouvrons maintenant la ligne et nous balayons en ce moment l'actualité. Nous sommes sur le cas précis, le cas typique du Mali en ce moment, en tout cas ces dernières 24 heures, une autre nouvelle a fusé de là-bas. Le représentant de la MINUSMA, monsieur Olivier Gaillardeau, est sommé de quitter le territoire avec effet immédiat sous 72 heures, voilà. Alors qu'en même temps aussi, dans le même temps, il y a la voie diplomatique qui est empruntée, un émissaire, le ministre togolais des Affaires étrangères, auprès du président ivoirien Alassane Ouattara, auprès du président de la junte au Mali Assimi Goïta, voilà. Donc 27 225 49 880, c'est pour vous l'occasion d'intervenir. Lynn Beugré.
D'accord, merci Gérard. Moi, je veux revenir carrément sur les œuvres, l'expérience, les débuts avec tous les noms qu'on a pu citer, Miss Césaire et tout. Alors, depuis vos débuts, vous êtes pour l'engagement de la cause noire. C'est ça. Et l'histoire également.
Juste un petit instant, on a déjà quelqu'un avec nous. Lynn, on va revenir bien évidemment à ta préoccupation. Allô, bonjour monsieur.
Bonjour Gérard.
Voilà, l'ami Gogo est de retour.
Monsieur Koulibaly.
Ah, monsieur Koulibaly. Oh, décidément, on vous voit là. C'est compliqué. Serge Billet est avec nous ce matin, monsieur Koulibaly.
Bonjour,
monsieur Koulibaly.
Oui. Bonjour, monsieur Billet.
Bonjour, monsieur Koulibaly.
Je suis monsieur Billet et je suis admirable de ce qu'il fait. La question que je vais demander à monsieur Billet, est-ce qu'il se considère comme un lanceur d'alerte avec ce qu'il a, révélé, pas trop catholique dans l'Église catholique?
Vous avez une bonne mémoire, c'est bien ça. Vous savez, quand j'ai écrit ce livre avec un confrère camerounais, c'était le fruit d'une longue enquête au Vatican. Nous avons été interrogés beaucoup de prêtres africains qui étaient victimes de racisme. Okay. Nous avons interrogé des religieuses africaines qui étaient victimes de la prostitution. C'est quand même pas rien au Vatican.
Tout à fait.
Et qui pratiquaient la prostitution. On s'est retrouvés bien seuls quand on a publié ce livre parce qu'on s'est fait, mais vraiment, engueulé de partout, on s'est fait insulter de partout. Je me souviens que même en Martinique, où je vis, où je travaille...
Mais le titre lui-même était déjà assez parlant. Je veux dire qu'il y a un point d'interrogation, c'est pas une affirmation en fait.
Mais en Martinique, où je vis, l'archevêque de la Martinique a fait lire dans toutes les paroisses un texte dans lequel on me traitait de merde. C'était vraiment le mot, un stercoraire, c'est-à-dire une merde. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis content, parce que le pape, les papes qui ont suivi ont fini par reconnaître qu'il y a eu des abus sexuels à l'égard des religieuses. Mmh. Les papes qui ont suivi ont fait en sorte qu'on permette l'accession, par exemple, à certains noirs qui sont prêtres à des rôles de responsabilité donc dans l'université donc, du Vatican. Mmh. Donc ça veut dire que le travail qu'on a fait a pu servir à quelque chose. Mais ça a été dur. Mmh. C'était dur parce qu'on a pris beaucoup de coups. Et moi, je pense, je ne sais pas si je suis un lanceur d'alerte, mais je pense que le travail des journalistes, c'est justement de porter la plume dans la plaie pour dire les choses et faire en sorte que les choses changent. Parce que notre rôle à nous, c'est pas qu'on soit des stars à la télé, c'est pas qu'on soit des stars à la radio. Notre rôle à nous, c'est de servir la population. Rien que ça, servir la population.
Parfait. On revient maintenant sur la préoccupation de Lynn Beugré. Je rappelle hein, justement que au 27 225 49 880, vous pouvez nous appeler. Nous sommes avec Serge Billet. Avec lui, justement, nous balayons l'actualité. Nous parlons aussi de son livre, le tout dernier, qui vient de sortir ici en Côte d'Ivoire. Depuis le 18, on a le 21, ça fait trois petits jours. Voilà, donc Lynn Beugré, oui.
Oui, en fait, j'avais pas fini, mais bon, je crois qu'il voulait revenir sur une expression. J'ai parlé de d'engagement pour la cause noire.
Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des Noirs.
D'accord.
L'histoire des Noirs. Parce que quand on s'engage, quelquefois, on peut s'engager de façon arbitraire, en essayant d'être pour ou contre. Moi, je ne me suis pas engagé, je suis dans une envie, une perception du dévoilement de l'histoire des Noirs, y compris des histoires cachées. Mais quand vous faites ça, ça veut dire que, parce que pendant très longtemps, je ne vous apprends rien, avec l'esclavage, les Noirs ont été considérés comme des sous-hommes.
Tout à fait.
Et quand vous êtes considérés comme des sous-hommes, vous n'êtes quasiment pas dans l'humanité, puisque, y compris l'Église catholique, vous reléguez donc au rang de diable. Donc, tant que c'était comme ça, vous pouviez encore jouer les victimes. Mais à partir du moment où nous-mêmes, nous nous réapproprions le fait que nous sommes des hommes, donc ça veut dire que nous le sommes avec nos ombres et nos lumières. Donc, écrire l'histoire des Noirs, pour moi, c'est écrire ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Quand j'écris qu'il y a des Noirs qui étaient déportés dans des camps de concentration et qui ont souffert du régime hitlérien, j'écris aussi qu'il y a des Noirs qui ont pris fait et cause pour Adolf Hitler, y compris des Noirs qui ont été se battre dans l'armée allemande jusqu'en Russie. Des Noirs qui voulaient devenir des Waffen-SS, des Noirs qui voulaient appartenir à l'élite militaire hitlérienne. Donc, il faut dire tout ça.
Cela veut dire qu'on accepte ce qu'on est,
on accepte ce que nous sommes, en bien et en moins bien.
Et est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs, aujourd'hui, en regardant un peu la jeunesse, l'évolution?
Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai écrit à peu près entre 25 et 28 livres aujourd'hui. Je pense que j'ai été jusqu'au bout de ma démarche. Après, il ne m'appartient pas à moi d'accueillir mes livres. Je vous dis très franchement comment se passent les dédicaces aujourd'hui. Je suis moi-même agréablement surpris. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'avais l'impression que l'histoire des Noirs, finalement, ça intéressait pas grand monde. Donc on était comme des chameaux dans le désert qui cherchaient à boire, mais on ne trouvait pas d'oasis. Et puis là, aujourd'hui, vous avez un raz-de-marée quand il y a des dédicaces. 200 personnes, 400 personnes qui sont venues à la FNAC Cap Nord samedi dernier. Je veux dire, j'ai jamais vu autant de monde. Voilà, donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que les gens sont en train de se réapproprier leur histoire et ils ont envie maintenant d'avoir une autre façon, qu'on leur raconte l'histoire d'une autre façon, pas forcément celle du vainqueur.
D'accord. Alors je continue maintenant avec le sujet pour le Mali. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire avec le Mali, on n'essaie pas, c'est une guerre contre toute la sous-région carrément? C'était comme si le Mali s'est mis à dos toute la sous-région.
Non, ils se sont pas mis à dos. C'est-à-dire que moi, vous savez, je vis sur une île, la Martinique, et j'ai travaillé aussi en Corse. Tous les insulaires ont l'impression toujours d'être dans une espèce de forteresse assiégée. Je pense que le Mali aujourd'hui se considère un peu comme des insulaires dans une forteresse assiégée. Donc ils envoient des signes et des signaux qui sont des signaux, quelquefois agressifs. Mais il faut voir dans ça aussi à la fois une envie de responsabilité, une envie aussi peut-être de lancer un cri d'amour à d'autres qui sont autour d'eux et qui quelque part les ont méprisés à travers non seulement ce qui a pu se passer par rapport aux interventions françaises où il y a eu quelquefois des morts et des civils qui ont été tués, donc et on en a passé ça sous silence, et puis aussi par rapport à la façon dont la CEDEAO s'est comportée vis-à-vis d'eux. Moi qui étudie l'histoire du Mali, j'ai vécu à Tombouctou et j'ai étudié l'histoire du Mali, j'ai écrit ce fameux livre dont on parle beaucoup en ce moment, quand les Noirs avaient des esclaves blancs sur les royaumes soudanais. Eh bien, justement, j'ai vu comment ce peuple était fier, et c'est pour ça que je suis un peu plus meurtri que les autres, parce que je me sens totalement aussi en phase avec les Maliens dans leur revendication d'une certaine souveraineté, d'un certain respect, tout comme je me sens en phase aussi avec mes compatriotes en Côte d'Ivoire, dans la volonté aussi de faire en sorte que nos soldats ne soient pas retenus plus longtemps.
Voilà, ça c'est parfait. Justement cette volonté de renouer avec cette histoire, parce qu'on connaît également l'histoire du Mali, c'est l'histoire des empires avec des grands noms qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Est-ce que aujourd'hui c'est pas une démarche de rupture pour dire eh ben on est fatigué d'être des victimes, on veut s'affirmer?
Ben moi, en ce qui me concerne, ça peut pas de la rupture parce que j'ai commencé ça depuis 2005. Donc je suis, quelques années que je,
ouais, 17 ans,
que, ouais, 17 ans que je travaille là-dessus, mais je crois que dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y a une volonté de rupture, c'est-à-dire que effectivement, mais je peux le comprendre. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je regarde, j'observe, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes, d'autres choses moins intéressantes, ça bouge pas. Mais je dis, mais qu'est-ce qui appartient aux Ivoiriens aujourd'hui? Les Marocains ont tout pris, les Français ont tout pris. On dit maintenant que les BRICS, c'est les Turcs. En tout cas, je ne sais plus trop. Mais qu'est-ce qui appartient aux Ivoiriens? Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, les gens se disent, mais attendez, on est chez nous. Mais est-ce qu'on est encore chez nous? Donc, ce qui se passe avec le Mali, c'est ce qui se passera peut-être un jour avec la Côte d'Ivoire, où les gens vont se demander, mais à qui appartient ce pays encore? Est-ce qu'il nous appartient? Donc c'est normal que des gens aient envie de se rebeller contre l'idée qu'ils sont dépossédés de leur pays. Voilà, un jour on se posera peut-être la même question en Côte d'Ivoire.
Parfait. Oh là là, on pourrait en tout cas passer toute une journée à discuter avec Serge Billet, mais bon, on est pris parfois par des contraintes de pause, hein, dont il est bien évidemment au fait aussi, pour pratiquer longtemps le métier, bien évidemment.
Normal, pas normal. Et si on en parlait?
Et si on en parlait, l'actualité est tellement riche, hein, qu'elle mérite justement qu'on la croque, qu'on la décrypte en tout cas. Et on a commencé par le Mali, et nous parlons aussi de l'œuvre, sinon des œuvres de Serge Billet, notre invité ce matin. Il y a quelque chose qui me fascine particulièrement, c'est quand vous partez chercher l'histoire, sinon les histoires des Noirs, dans des pays tellement lointains. Par exemple, je parlais de Yasuke, que vous avez révélé, le samouraï noir, le guerrier justement noir. C'est assez fascinant. Comment ça se fait justement la démarche pour aller chercher? Parce que là, c'est une question de 1500 en fait.
Oui, et moi, je me souviendrai toujours de cette parole de Foudbouani qui disait... Ça peut paraître bizarre que je vous fasse cette citation avant de vous répondre. Qu'on peut servir son pays... où que l'on soit dans le monde. Donc ça veut dire aussi que quelque part, on n'a pas qu'à s'intéresser à notre histoire de la Côte d'Ivoire, mais on doit s'intéresser à l'histoire aussi de toute la diaspora. Et donc l'histoire de la diaspora, c'est celle qui concerne d'autres Africains ou bien d'autres gens qui sont partis de l'Afrique, qui sont devenus autre chose. Et moi, je m'intéresse à toute l'histoire de la diaspora. Et c'est vrai que dans cette diaspora-là, il y a ces Noirs qui sont partis au Japon, dont on ne connaît pas justement l'existence. On a toujours abâché que le premier samouraï étranger était un Anglais. Mais c'est faux. C'est faux. Ce premier samouraï étranger était quelqu'un qui est originaire de Mozambique, qui s'appelait donc Yasuke. Ah, je suis content que...
Mais encore là-dessus, c'est vrai que les historiens ne s'accordent pas vraiment. Il y a certains qui estiment qu'il vient de l'Éthiopie, du Congo, du Mozambique et tout.
D'accord. Voilà. Laissons parler les gens comme la chanson. ce qui est important, c'est d'avoir dit que le premier samouraï étranger était africain.
C'est ça.
Nous devons restituer aux Africains toute leur histoire, même si c'est pas forcément toujours une histoire glorieuse, une histoire donc bénéfique. Mais il faut restituer ça. Et donc, je suis content, moi, depuis que j'ai sorti ce livre, maintenant tout le monde s'en parle. Yasuke est devenu vraiment quelque chose.
Qui a été adapté à Hollywood aussi.
Hollywood va en faire un film, mais qui n'a rien à voir avec mon livre. Netflix a fait, un dessin animé qui n'a rien à voir avec mon livre. Mais au moins tout le monde s'empare de cette histoire. Ça veut dire quoi? Que si nous-mêmes nous faisons le travail, au lieu de pleurer tout le temps pour dire on nous cache des choses, on fait pas ça pour nous, les blancs ceci, les blancs cela, mais si nous-mêmes nous faisons le travail, et si nous donnons les moyens à nos historiens ivoiriens, je dis bien nous donner les moyens, donc ça veut dire que les ministères donnent les moyens à nos historiens ivoiriens de faire le travail, mais on est capable de faire les mêmes découvertes que les autres. La preuve, c'est que
Il n'y a pas que Yasuke, vous dites aussi qu'il y a le dernier passager noir du Titanic.
Oui, tout à fait, oui. Donc, non, je raconte l'histoire aussi, et que j'ai retrouvé en allant aussi en Haïti. Voilà. Donc, on est capable de faire ça. On n'est pas moins que les autres. Et c'est cette révolution-là qu'il faut qu'on fasse dans nos têtes, et que nos dirigeants doivent faire dans leur tête, à savoir qu'en nous donnant les moyens,
nous avons la capacité de pouvoir briller dans le monde entier et justement d'apporter cette connaissance à nos peuples et puis de les rendre fiers. Et quand un peuple est fier, il avance, à mon avis, beaucoup plus vite.
Mmh. Oui, mais dans ce cas, quand il dit par exemple que Oufou avait dit on peut servir son pays partout où on est dans le monde, est-ce que c'est le cas de Sorodium?
Mais faut lui poser la question à Sorodium.
Mais tu le cherches. Parce qu'il est là-bas, il parle, il a été venu sur le Mali, la fête des femmes, des mamans, il a intervenu, il a fait venir des bouteilles de gaz, tout et tout. Il est en train de servir son pays, mais oui. On ne sait pas où il est, vous. Est-ce mais que moi, vous avez une
moi,
idée
moi, à titre personnel, je ne suis pas un porte-parole de Sorodium. Mm. J'ai déjà exprimé ma critique à l'égard de Sorodium, donc je ne vais pas recommencer ici. Je dis que, et j'étais très sensible au fait qu'il ait demandé pardon aux Ivoiriens. Mm. Mais encore aurait-il ne pas fallu enclencher cette rébellion. Mm. Voilà, il a demandé pardon, ok, on prend acte de son pardon. Et j'avais même dit, en poussant le bouchon plus loin, que ce qu'il aurait de mieux à faire, c'est de s'enfermer dans un couvent et de prier jusqu'à la fin de ses jours pour pouvoir expier ses fautes. Mmh. Voilà, maintenant, je ne peux pas parler pour Sorodium. Si vous le connaissez, vous lui posez la question. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à lui, je l'ai déjà dit.
Mmh. Voilà. Donc, parfait. Puisqu'on parle là maintenant des dirigeants, le jeudi dernier, les trois grands, selon la formule consacrée, bien évidemment, Alassane Ouattara, Henri Conan-Bédier, Laurent Gbagbo se sont rencontrés pour, consolider déjà la cohésion sociale, partant la réconciliation nationale. Quel est le regard, justement, que vous avez porté sur cette rencontre-là?
Moi, j'ai dit, et je l'ai écrit sur Facebook, que tant qu'ils se rencontrent, c'est bien. Hmm. Quand c'est une bonne chose, cette rencontre est une bonne chose, c'est le président de la République, c'est Alassane Ouattara qui l'a initié, c'est une bonne chose, il faut dire que c'est bien, voilà. Il n'en reste pas moins que j'ai toujours dit pendant les élections, et je n'ai pas changé d'avis, que je suis ni Gbagbo, ni Ouattara, ni Bédier. Ces trois personnes, ensemble, nous ont foutu dans la merde à cause de leur division. Aujourd'hui, c'est normal qu'elles essayent de réparer avant que, justement, une autre génération ne prenne le relais. Mm. Parce que c'est leur querelle.
Est-ce que vous seriez d'accord? Que diriez-vous si ces trois leaders politiques rempilent, justement, pour 2025, par exemple?
Ce serait un drame pour la Côte d'Ivoire. Ce sera un drame que l'un ou l'autre, d'ailleurs, empile. Pas les trois, mais peut-être que l'un seul. Mais, parce qu'il est bon maintenant qu'on passe, qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. Quoi, voilà. Je ne dis pas que ceux qui vont venir après, de la nouvelle génération, de la jeune génération, sont meilleurs. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il est bon aussi maintenant de marquer une rupture avec trois personnes qui ont des qualités intrinsèques qui sont fortes, mais qui ensemble ont créé une situation qui a mis la Côte d'Ivoire en péril. Aujourd'hui, on essaye de rabibocher les choses. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'un seul qui a souffert. Ils ont tous souffert.
Tout à fait.
Ouattara a souffert de la façon dont il a été ostracisé et pour laquelle je n'étais pas d'accord. Bédié a souffert aussi pour la façon dont il a été traité. Gbagbo aussi a souffert. Ils ont souffert tous les trois. Mais c'est tous les trois qui, ensemble, ils ont créé cette situation. Donc c'est à eux de nous en dépatouiller pour qu'on puisse récupérer un pays qui va, espérons-le, aller mieux ou aller différemment avec une nouvelle génération. Mmh.
Vous avez parlé de drame, s'il devait se présenter à nouveau en 2025. Nous sommes à 3 ans, voilà, de 2025. Est-ce qu'on peut avoir un visage à l'horizon, c'est-à-dire de succession?
Mais moi, je dis toujours qu'il y a quelque part, quelquefois, des hommes tapis dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Mmh. Et qui peuvent, comme ça, d'une façon inopinée, surgir et puis faire des choses extraordinaires et puis nous prouver qu'ils sont capables de servir ce pays. Peut-être que...
Est-ce que nous, ici, moralement, on est prêt pour ça? C'est-à-dire, quelqu'un qui vient en 3 années, est-ce qu'il peut arriver à convaincre un peuple comme la Côte d'Ivoire?
On ne sait jamais. Qui pensait qu'un jour, Barack Obama sortirait du bois et puis qu'il créerait donc quelque chose d'aussi fort que ce qui s'est passé? Moi, je dis, franchement, quel que soit celui qui sera élu, qu'il soit RHDP, qu'il soit FPI, qu'il soit PDCI, ça m'est complètement égal. Je ne suis pas partisan, donc quel que soit le parti, mais à condition qu'il soit bien élu et qu'il obtienne le suffrage de la majorité des Ivoiriens. À partir de ce moment-là, on va tous travailler pour le pousser. Mais tant qu'on sera dans des magouilles, dans des tripatouillages de constitution, de ceci ou de cela, pour moi, ce n'est pas bon pour un pays. Voilà, donc essayons de militer pour que justement, il y ait, une fois que ces trois grands auront tourné la page, des choses qui soient démocratiquement plus fortes et plus saines dans ce pays.
Mmh. Il est bien placé dans la Picasse, lui qui n'aime pas tout patouage, il a déchiré des papiers.
Oui,
il sera bien. Ici, le président, je crois qu'il va lutter, il va être sérieux dans la chose.
Je me souviens effectivement de cet épisode-là, c'était pas très glorieux.
Oui, okay. Mais après les trois, il faut qu'ils s'enferment aussi dans un couvent comme Soro pour expier aussi le péché.
On va avancer, les amis.
J'ai fait ma proposition, à toi de faire la tienne.
Bon, allez, cette fois-ci, nous allons maintenant aborder la question de l'éducation nationale. Eh bien, avant justement les résultats du bac qui sont à paraître le mardi prochain, au niveau du BEPC, on est
28,9 ou ça.
Voilà, un taux d'admission de 28,89%. De façon globale, quel est le regard aussi
Vous voulez que je dise que c'est bien?
Moi je suis d'accord.
C'est catastrophique. Moi, ce que je ne comprends pas, vous êtes journaliste et nous avons beaucoup de journalistes dans ce pays. Tout le monde donne ses résultats en disant que c'est catastrophique. Mais c'est la faute à qui? Qui était ministre avant celle-ci? Disons les choses.
Oui, justement, c'est Candia Camara.
Avant
Maria Toukoné.
C'est sa responsabilité.
Mais l'école libérale est malade depuis longtemps, c'est pas...
Attendez, on est totalement d'accord que l'éducation nationale va mal depuis longtemps. Mais je suis désolé, chacun doit assumer la part de responsabilité. De la même façon qu'on peut accuser le FPI d'avoir fait un certain nombre de choses, ou le PDC d'avoir fait un certain nombre de choses, ce pouvoir est là depuis donc autant d'années. Il faut qu'il assume aussi donc ce qui se passe. Moi, Maria Toukoné, c'est une femme, je fais rarement des compliments sur les hommes ou les femmes politiques, c'est une femme que j'admire, dont j'aime le courage, dont j'aime l'honnêteté, et dont j'aime l'énergie. Voilà, vous voyez, une fois que j'ai dit ça, ou fermez la parenthèse, parce que j'aime pas faire des compliments aux hommes politiques et aux femmes politiques, parce qu'après, ils finissent par s'en gargariser, ils pensent que nous sommes les journalistes à leur botte. Non, c'est une femme qui est bien. Voilà, disons-le. Et je le dis aux Ivoiriens qui la connaissent peut-être pas, moi je la connais pas plus, mais je l'observe. J'observe ses écrits, j'observe ce qu'elle dit, j'observe son attitude, même sa gestuelle, et je trouve que c'est une femme qui est bien. Mais malheureusement, elle pourra pas toute seule changer les choses. Il faut l'aider. Et l'aider, ça veut dire qu'au niveau des familles, il faut aussi que les choses se constituent. Voilà, donc les résultats sont mauvais. C'est la conséquence de ceux et de celles qui ont géré avant ce ministère. Aujourd'hui, il faut aider cette femme, Maria Toukoné, donc à aller plus loin et à faire en sorte que cette école se lève. Parce que tant que l'école sera à terre, mais c'est nous tous qui en pâtissons. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, ce sera une Côte d'Ivoire des médiocres. Et les médiocres auront le pouvoir. Les médiocres auront donc tous les leviers de décision dans les entreprises. Et si les médiocres ont le pays va s'enfoncer encore plus. Donc il faut se battre pour que justement ce pays se relève. Nous, les auteurs, nous, les écrivains, on essaie de faire notre part. Moi, en écrivant des livres, et vous savez, c'est difficile, même pour nous, de faire entrer nos livres au programme scolaire. C'était la croix et la bannière pour qu'un de mes livres bonnie entre au programme scolaire. Mais les autres ont du mal, que ce soit au Fouet de Boigny, que ce soit Marie-Thérèse. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est une mentalité qui est gangrénée, qu'il faut aussi décoincer.
Voilà. D'accord. Lynn, avant qu'on pose la dernière question justement sur la vie chère.
Non, moi c'est pas sur la vie chère. Hein,
Ce sera la dernière partie en tout cas.
Ok, Mandy l'avait dit tout à l'heure hein, hors antenne. Vous nous avez fait rêver. On a l'impression que votre génération a au moins, on va dire 50 ans.
C'est ce que Mandy a dit. Elle a dit 100 ans.
Voilà. Aujourd'hui, notre métier régresse. Ouais. Alors, vous revenez en 2025. Est-ce qu'il n'y a pas un projet, voilà, dans l'audiovisuel, dans le monde du journalisme, de sorte à nous apporter quelque chose?
Moi, je suis fatigué du journalisme, vous savez.
Vous voulez pas retransmettre ce que vous avez appris, tout ça?
Vous oubliez
tout cet héritage.
Vous oubliez par où je suis passé en Côte d'Ivoire. Vous étiez trop jeune.
Oui, on veut le savoir aussi, si c'est possible.
J'ai fini à la MACA en 1993 pour avoir dénoncé des choses à la RTI quand on emprisonnait les gens de façon arbitraire. J'ai fini à la MACA. Donc j'ai eu mon lot déjà. Donc je pense que beaucoup de journalistes n'ont pas mouillé leur chemise comme je l'ai mouillé. Voilà, j'ai fait ma part, j'ai dit ma part, j'en ai payé le prix. Après, je suis allé donc grandir ailleurs, j'ai fait des choses ailleurs. Aujourd'hui, j'ai droit aussi à pouvoir revenir dans mon pays tranquillement pour faire autre chose. Si c'est de la politique, ce sera de la politique. Si c'est du tourisme, ce sera du tourisme, quel que soit. Mais voilà, mais du journalisme, c'est bon, j'ai déjà donné.
Un conseil, une sorte de mantra à cette jeune génération de journalistes.
Mais il faut faire la prison aussi.
Mais c'est une très bonne chose. C'est une très
de faire la prison.
Je vous assure qu'en prison, moi, j'avais pas peur pour moi. J'avais surtout peur pour mes parents. Parce que quand on est en prison, c'est une mine d'informations qu'on collecte sur la société ivoirienne. Comment est-ce que des gens sont emprisonnés de façon quelquefois arbitraire, sont là, parce que je me souviens très bien, pour savoir ça s'est passé en 92, mais je m'en souviens encore, un monsieur qui avait monté une auto-école et qu'il y avait un ministre qui voulait absolument le taxer parce qu'il ne voulait pas justement que ce ministre puisse récupérer son auto-école, on l'a foutu en prison. Vous voyez, il y avait, c'est toute la société ivoirienne que l'on voit en prison, à la fois la délinquance, la réelle délinquance, et puis des gens qui quelquefois sont emprisonnés injustement ou qui sont là depuis des mois sans avoir été jugé. Mmh. Voilà, donc je ne souhaite pas que nos journalistes aillent en prison, mais je souhaite simplement qu'ils soient courageux. Oui, voilà, il y en a qui sont courageux, il faut les encourager. Et puis ceux qui ne le sont pas, ben il faut leur donner un coup de pied au cul pour qu'ils soient plus courageux.
Ben voilà qui est clair. Ok, on va terminer. Dernière question, Serge Billet, c'est la question de la vie chère. Les Ivoiriens crient de plus en plus leur ras-le-bol face déjà à l'inflation, et puis derrière évidemment l'inflation, le pouvoir d'achat qui drastiquement a baissé, et la société civile qui tente tant bien que mal justement de faire entendre raison à l'État. L'État qui dit tiens, je vous soutiens parce que j'ai plafonné les prix d'un certain nombre de denrées alimentaires, etc., etc. Que dites-vous de tout ça? Mais qu'en pensez-vous?
Moi, je suis passé par là parce que nous avons le problème de la vie chère, on le connaît en Martinique depuis au moins 2009 parce qu'il y a eu de la grande grève aux Antilles qui a paralysé les Antilles pendant 3 ou 4 mois. C'était à cause de la vie chère.
Tout à fait.
Donc, on connaît. Après, il y a eu des réunions au niveau du gouvernement, au niveau des préfets pour qu'on trouve un plafonnement de certains prix. Il y a eu 100 prix qui ont été bloqués pour 100 d'arrêt alimentaire. Donc, je connais la question.
Okay.
Mais nous, pourquoi les choses ont bougé à la Martinique? Même si aujourd'hui encore, la vie chère, on l'a subi. Les choses ont bougé parce que la population a bougé. Moi qui n'avais pas fait de manif, la première manif et la seule manif que j'avais fait en France, c'était pour Malik Oussekine. Quand il a été tué par des policiers, les voltigeurs, c'était quand j'étais à l'école de journaliste, c'était en 1986 ou 87.
Eh ben dis donc,
voilà.
Donc c'est assez compliqué pour nous.
C'était ma seule manif. Mais en 2009, pour la première fois depuis donc cette manif-là, j'étais dans la rue aussi avec d'autres journalistes. Voilà. Et pourquoi ça a bougé? C'est parce que justement, toute la population s'est levée. Regardez, en Côte d'Ivoire, il y a eu quelque chose contre la vie chère hier ou avant-hier.
La ville
mode. Ça y est passé. Vous avez un chanteur comme Baby Philippe qui dénonce quelque chose à juste titre. Mm-hmm. Et puis on lui tombe dessus, à bras raccourcis. C'est pas une question de pro-Babo, de pro-Ouattara ou de pro-Bédier. Il dénonce quelque chose que tous les Ivoiriens subissent. Voilà. La vie chère, c'est pas forcément quelque chose qui est lié uniquement au gouvernement. Parce qu'il y a des contextes régionaux, nationaux, internationaux qui font que.
Oui.
Mais tous les.
La fameuse rengaine aussi de la guerre russo-ukrainienne.
Ça c'est facile. Ça c'est facile aussi. À mon avis, je pense que si ma puce Mou va augmenter, c'est à cause de la guerre en Ukraine. mais tout ça pour vous dire que on peut quand même demander à nos gouvernements d'agir sous tel ou tel point de façon à ce que les plus pauvres ne soient pas trop impactés par ça. Sinon, la vie chère, c'est une préoccupation qui n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire, c'est une préoccupation mondiale.
Merci beaucoup Serge Billet d'être passé par chez nous, auteur, écrivain, journaliste.
Et voilà, chanteur donc, aussi.
Ah oui.
Non. Vous avez écrit une chanson, vous avez chanté.
À 16h perdu. Merci Lynn Beugré, merci de Perpignan, merci Armel Mehdi. On se retrouve demain les amis. Voilà, en tout cas ça a été un riche moment avec Serge Billet. Pardon, avec
le temps n'était pas assez en plus.
Ah oui, le
Billet matinicain, je me dis, elle est doula pas tout là.
Comment dire en Côte d'Ivoire?
Pas mal. Je suis d'Aboisseau.
Voilà, d'accord. Hein, Annie, c'est le
sanglis,
ça.
Oui. Voilà. Le village de mes parents, c'est Abby, donc je suis Annie d'Aboisseau.
Voilà.
Ah, d'accord.
Voilà, on dit le journaliste, la bouche est trop sucrée. Tu veux les écouter. Voilà. Bon,
c'est vrai.
Oui, justement, bien évidemment. Bon, allez, Ami Dembélé s'installe tout à l'heure. C'est live chez vous. On a grignoté comme d'habitude. Ami, veuille nous en excuser. Voilà. On a aussi bien apprécié les croissants, les pains au chocolat.
Elle a fait
et tout.
Ça pour qu'on puisse laisser son heure.
On a grignoté. Désolé, Ami. Quand on reçoit un tel invité comme Serge Billet, on déborde quelquefois.
À demain. Serre,
je peux juste te dire une chose.
Oui, rapidement.
Elle était très agréable.
Ah.
Elle m'a apporté un petit déjeuner vraiment extraordinaire.
C'est comme ça qu'elle est. La dernière fois qu'elle a fait ça à un monsieur, le monsieur s'est retrouvé à la maca aussi.
Pas normal. Et si on en parlait? Life Radio 107.7, la radio comme tu l'entends.